nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Vous attachez à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal Academy. La semaine de la langue française 2008, qui se déroule du 14 au 24 mars, a été placée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France sous le signe de la rencontre. Il s'agit de célébrer la langue française comme lien social par excellence, comme outil privilégié pour aller à la rencontre de l'autre et des autres. Et comme chaque année, la délégation a proposé 10 mots, les 10 mots de la rencontre donc, et c'est la linguiste Henriette Walter qui va nous les faire découvrir et surtout nous en raconter l'origine et l'histoire. Henriette Walter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une linguiste renommée, vous êtes professeure émérite de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne et directrice du laboratoire de phonologie à l'École pratique des hautes études à la Sorbonne. Et vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'histoire de la langue et des mots. Je n'en puis citer que quelques-uns, mais au moins les plus célèbres. L'aventure des langues en Occident, l'aventure des mots français venus d'ailleurs, un ouvrage qui avait été distingué du Grand Prix de l'Académie française en 1988, excusez-moi de dire la date, parce que ça nous remonte loin en arrière.
Oui, à vrai dire, celui qui a été distingué par l'Académie française, c'était le français dans tous les sens. Tandis que l'aventure des mots français venus d'ailleurs, c'était le prix Louis Powell.
Voilà, et c'était donc en 97 ou 98. On y soit qui mal y pense, l'incroyable histoire d'amour entre le français et l'anglais. Et enfin, parmi les derniers parus, l'histoire des noms des mammifères. Et puis, Arabesque, l'aventure de la langue arabe en Occident. Un livre qui a fait l'objet d'une série de plusieurs émissions disponibles dans la médiathèque de Canal Academy. Alors, si vous en êtes d'accord, Henriette Walter, nous prenons ces 10 mots de la rencontre dans l'ordre alphabétique, finalement.
Si vous voulez, on peut les prendre dans l'ordre alphabétique, mais il me semble qu'on pourrait les prendre par ordre chronologique, c'est-à-dire à la manière dont ils sont entrés dans la langue française.
Alors, je vous écoute. Quel serait le premier, alors ?
Le premier, c'est « visage », qui est entré dans la langue française au XIe siècle. On le trouve déjà, pas dans les serments de Strasbourg, ni dans la cantilène de Sainte-Eulalie, mais on le trouve dans la chanson de Roland, déjà. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que avant d'avoir « visage », on a eu « vie », V-I-S, qui a disparu de la langue française, sauf dans une expression « vis-à-vis ». Visage contre visage, disons. Hein.
C'est bien de commencer la rencontre par visage, parce que si on ne se voit pas, au fond, on ne se rencontre pas vraiment. Je crois que c'est très symbolique.
Il a été intéressant aussi de choisir le mot « toi ». Le mot « toi », T-O-I, « toi », c'est-à-dire que, évidemment, la première personne à laquelle on va s'adresser, c'est l'autre. Et l'autre, c'est « tu » ou « toi ». Alors, évidemment, là, il faut peut-être faire la distinction entre « tu »,« te » et « toi ». Et pour toi, nous avons la forme de l'accusatif, c'est-à-dire que je vais avec toi, je vais avec toi, c'est donc le complément, alors que le nominatif serait tu et l'accusatif serait te. Donc on a ainsi trois formes différentes, trois formes grammaticales différentes pour nommer cet autre qui est toi et qui est mon proche finalement, hein, quelqu'un qui est proche de moi et que je rencontre avec plaisir et à qui je m'adresse. Et là, ce sont des formes qui existent depuis le XIIe siècle pour toi, mais seulement depuis le XIe siècle, donc bien avant, pour te, qui vient de te latin. Ça, c'est les deux premières choses, c'est-à-dire que la première chose qu'on voit, c'est donc le visage, le vis-à-vis, et puis l'autre personne que l'on va appeler « toi ». Évidemment, si on est poli, on va l'appeler « vous ».
En français, voilà, mais dans d'autres langues, il n'y a pas de...
C'est ça, en anglais, par exemple, on n'a pas besoin, on ne fait pas la distinction entre « toi » et « vous ».
Il n'y a pas de « vous » de politesse, disons, voilà, il n'y a que d'un « vous » collectif.
Exactement, exactement. Et ensuite, plus tard, un petit peu plus tard, arrive le mot « tact ». Le mot « tact » qui n'arrive qu'au XIVe siècle.
Avant, on n'avait peut-être pas de tact. D'où vient ce mot qui a quand même une orthographe bizarre, T-A-C-T?
Voilà, alors en fait, c'est un mot qui a été repris au latin. Vous savez, lorsque Charlemagne s'est dit que la langue française avait un petit peu trop évolué, que, enfin, cette langue de France avait trop évolué et que ça n'était plus du latin, il s'est dit qu'il faut absolument réenseigner le latin à ces pauvres Français qui l'ont oublié. C'est à partir de cette époque-là, c'est-à-dire Charlemagne, hein, 9e siècle, à partir de cette époque-là, qu'on est retourné vers le latin classique, et qu'on a repris des formes du latin. Du latin, alors là, on a tactus, latin, et on a, ça vient du verbe de tangere, tangere ou tangere, tangere si on prend.
Nolib et tangere.
Voilà, exactement, qui veut dire toucher. Alors évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a tangible et on a intact ou tactile, n'est-ce pas? Donc on retrouve ces formes, mais en fait, ce mot tact n'existe en français, n'est attesté en français qu'à partir du XIVe siècle. Et il n'a pris le sens que nous lui connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire délicatesse, doigté, qu'à partir de cette époque-là. Peut-être à partir du milieu du XIIIe siècle. Autrement dit, au début, c'est simplement le fait de toucher, très matériel, et ensuite c'est devenu quelque chose d'un peu plus, moins physique, disons, hein, plus poli, un peu de politesse.
Alors moi, je suggérerais, à la suite de ce que vient de dire Henriette Walter, que d'une part, on retourne à l'enseignement du latin, militant pour le latin, et qu'en plus on redéveloppe le sens du tact dans le sens que vous dites, c'est-à-dire la politesse envers autrui, parce qu'au fond il n'y a pas de rencontre envers autrui s'il n'y a pas une sensibilité envers autrui.
Oui, c'est ça, et qu'il y ait une sensibilité et que l'on fasse notre approche vers cet autrui avec tact, sans exagérer.
Donc nous en étions au XIVe siècle avec tact.
Au XVe siècle, le verbe s'attabler. Évidemment, la table existe, le mot table lui-même existe depuis le XIIIe siècle. C'est seulement le verbe s'attabler qui arrive au XVe siècle. Alors la table, c'est tabula, latin, qui a remplacé mensa, du latin classique. Et là, on touche du doigt le fait que le français ne vient pas seulement du latin classique. Il vient aussi de l'autre latin, celui qu'on a appelé le latin vulgaire, le latin des parlés, le latin parlé.
C'était une langue qui évoluait comme toutes les langues, qui avait donc un côté classique, un côté plus courant et plus populaire.
On a au début, c'est une table n'importe laquelle, c'est-à-dire une table avec une planche, parce que tabula à l'origine c'est une planche, hein, d'où le mot tableau, n'est-ce pas, qui est une planche également. Et plus tard, ça a pris le sens de repas pris à table et ensuite s'attabler, qui depuis le milieu du XVe siècle avait tout d'abord désigné le fait de s'asseoir devant une table de jeu et pas une table où on mange, et seulement plus tard devant la table du repas. Et aujourd'hui, quand on parle de s'attabler, c'est plutôt pour des raisons gastronomiques et donc la rencontre et donc le fait d'avoir une espèce de communion dans un repas.
Il ne saurait y avoir de fête ni de rencontre des autres sans effectivement le repas ou le verre partagé. Enfin, il y a toujours quelque chose à table, c'est sûr.
Et c'est bien typiquement français, où quand on s'attable, non seulement on déguste des mets délicieux, succulents, mais encore on en parle. Et on en parle. Et ça, c'est le fait de la rencontre, justement. Quand on se rencontre, on aime se parler. Et on parle de nourriture, même lorsque on est avec des étrangers qui, chez eux, ne le font pas. On n'a pas tellement le droit. En Angleterre, par exemple, on ne parle pas tellement de ce qu'on est en train de manger.
On parle de ce qu'on a mangé en France après avoir parlé de la pluie et du beau temps. Il faut tout de même parler de la météo d'abord.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, on aime insister sur la qualité de la nourriture, la qualité, la précision avec laquelle les repas sont préparés, hein. Bon, alors voilà pour s'attabler. Et ensuite, nous arrivons au XVIe siècle. XVIe siècle avec la boussole.
Là, c'est beaucoup plus savant.
La boussole, c'est un mot qui nous est arrivé de l'italien. C'est l'époque où on a tellement aimé tout ce qui venait d'Italie qu'on a beaucoup emprunté. Je vous en donne quelques exemples. Douche, banque, carton, balcon. Carrosse, soldat sont des mots d'origine italienne qui nous sont arrivés au XVIe siècle avec, bien sûr, on avait la cour des Médicis, hein, nous étions très très proches de l'italien. Mais en tout cas, Pour Audimo, nous avons le mot boussole. Précédemment, ça ne s'appelait pas boussole. Pour indiquer la fonction de la boussole, on ne disait pas boussole, on disait magnète. C'est-à-dire que ça venait du latin magnes, qui était le nom de la pierre d'aimant. Et ensuite, on a pris le mot boussole, qui vient de l'italien bussola, qui est une boîte, la boîte dans laquelle se trouvait l'aimant, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que, finalement, on a eu une métonymie, hein, avec le passage de l'objet dans lequel il se trouve. Et à cette époque-là, on appelait également la boussole une marinette. Pourquoi? Parce qu'elle était souvent utilisée par les marins pour se diriger dans leur navigation.
Le mot magnète, il revient à la mode parce qu'on vend maintenant dans les musées des magnètes, c'est-à-dire des choses magnétiques, des objets magnétiques.
Alors là, c'est un peu une influence de l'anglais. C'est revenu, c'est quelque chose qui nous a été apporté par l'anglais. Alors, on est donc au XVIe siècle et c'est à cette époque aussi qu'on a le verbe apprivoiser. Alors, apprivoiser, c'est quelque chose qui est important puisque lorsqu'on fait une rencontre, on veut bavarder aimablement avec les gens qui sont en face de vous. Quelquefois, ils n'ont pas l'air tellement contents et donc il faut les apprivoiser. Alors, d'où vient apprivoiser ? Ça vient d'une forme de latin populaire qui était apprivatiare, qui est formée sur privatus, privé, c'est-à-dire que on rend les gens un petit peu plus familiers, on les domestique d'une certaine manière, un peu comme on domestique un animal. Hein. Ce serait un petit peu ça, mais peut-être qu'on peut être un petit peu plus poétique avec ce que disait le renard dans...
Évidemment, on y pense, dans Le Petit Prince.
Il faut d'abord m'apprivoiser, et à ce moment-là, je pourrai revenir, et tu penseras à moi, etc., etc.
Apprivoiser, ce serait donc faire rentrer dans la sphère plus privée.
C'est ça. Et avec tact, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier le premier mot que nous avons eu tout à l'heure et qui était tact. On le fait, mais il faut le faire en douceur. Il ne faut pas le faire brutalement. Et puis arrive le mot palabre au XVIIIe siècle. Palabre, il est intéressant ce mot parce qu'en fait, on ne peut pas en parler tout seul. On peut parler de palabre en indiquant que ça vient de parabola, du grec, que ça a donné à la fois parole, parabole et palabre. Autrement dit, on n'a plus ce qu'on a appelé des doublets, mais un triplet cette fois. Qu'est-ce que c'est qu'un doublet? Un doublet, c'est un mot français, dans le cas du français, un mot français qui vient du même mot latin, mais par deux voix différentes. Et là, eh bien, on a un mot qui vient lointainement du grec, mais par trois voix différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que le sens de palabre? Alors, palabre, ça fait penser tout de suite aux pays africains où il y a l'arbre à palabre. Et c'est sous cet arbre à palabre que l'on discute des faits de la communauté. Et aujourd'hui, évidemment, la palabre a un petit côté un peu péjoratif. Hein. On dit oui, il y a eu de longues palabres, ça a duré, il y a eu de la discussion, etc., etc. Voilà.
Je suis sûre que dans certains pays européens, on fait de longs palabres aussi. Hein. Alors, c'est masculin ou féminin, le palabre?
Normalement, c'est masculin. C'est masculin. Hein, mais je pense que les deux sont autorisés. Je ne sais pas ce que dira l'Académie. On a déjà passé palabre dans le dictionnaire.
Il faudrait peut-être qu'on aille regarder. Alors, on va aller regarder palabre.
On va regarder ce qu'a dit l'Académie. Alors, nous arrivons au XIXe siècle avec toute cette prolifération de mots venus du grec. Et rhizome en est un. Rhizome, c'est de la botanique, n'est-ce pas? C'est une racine souterraine, vivace, et qui, chaque année, donne de nouvelles racines. Et là, c'est formidable pour les mots. Il est vrai que les mots sont des espèces de germes qui, quelquefois, s'ouvrent un petit peu plus tard. Et tous les mots n'arrivent pas à la même date pour la même racine. Prenez par exemple le mot suivant, qui est jubilatoire. Jubilatoire n'est arrivé qu'au XIXe siècle. Mais la jubilation existait déjà en français au XIIe siècle. Autrement dit, vous voyez qu'il faut toujours faire très très attention lorsque les gens disent « oui, mais ça n'a pas d'importance, c'est la même racine ». Oui, d'accord, mais le mot lui-même n'est arrivé qu'un petit peu plus tard. Voilà pourquoi on peut, lorsqu'on travaille sur les néologismes par exemple, on peut très bien dire « bon, bien entendu, cette forme, cette dérivation n'existait pas au siècle précédent, mais maintenant on peut très bien l'utiliser si ça va dans le droit fil de la langue française. Et dans ce cas-là, ça l'est. Et alors jubilatoire, c'est un mot qui plaît parce qu'en fait on a l'impression qu'on vit pleinement quand on jubile. Et alors en latin, ce sens était encore plus important, plus bruyant, disons, puisque c'était rire aux éclats. C'était pousser des cris de joie. Donc vous voyez que la jubilation peut aller extrêmement loin.
Mais quand même, le rhizome, dans les mots de la rencontre, c'est dur.
Il est un petit peu dur, on a poussé un petit peu loin. Peut-être est-ce pour rappeler que le français, c'est une langue d'origine latine, mais qui va puiser souvent dans les racines grecques. Et que peut-être que c'est peut-être pas inintéressant que les gens se disent, eh bien oui, on va aller chercher dans le dictionnaire.
Là, il va falloir l'agencer avec les autres.
Ah oui, c'est pas facile. Dans des phrases
dans des
ou
exercices pour la rencontre, ça va être difficile tout de même.
Maintenant, si on met des passerelles, ça va être bon.
Et
oui, puisque c'est notre dernier mot, c'est un mot qui est arrivé au 19e siècle. Alors, cette passerelle, c'est quelque chose qui est une espèce de pont étroit, qui sert à l'origine au passage des piétons, tout simplement. Une passerelle, ça peut pas être autre chose. Alors évidemment, ça a pris des sens un petit peu plus importants maintenant, plus extrêmes, mais on peut aussi prendre la passerelle dans son sens métaphorique. Donc, et avec une passerelle, eh bien, moi, j'ai essayé de faire une petite phrase avec tout ça.
La phrase d'Henriette Walter.
Voilà, nous avons les rencontres jubilatoires, de visages à apprivoiser avec tact, parmi des gens désireux de s'attabler, pour jouer avec des mots savants comme rhizome, et pour poursuivre à tu et à toi des palabres familières. Voilà un programme, peut-être pour l'année prochaine, avec cette passerelle vers des conversations à la fois amusantes et peut-être un peu savantes à cause de rhizome.
Merci Henriette Walter. Je rappelle que vous avez donné à Canal Académie toute une série d'émissions sur les relations entre la langue française et la langue arabe. Et ces émissions sont disponibles à l'écoute ou au téléchargement dans notre médiathèque. Alors, tous vos livres, disons, grand public, sont publiés aux éditions Robert Laffont, mais vous avez également publié des ouvrages plus savants sur la langue, le langage, la prononciation. Alors, le tout dernier qui va sortir...
Le tout dernier qui est sorti il y a trois mois,
La mystérieuse histoire du nom des oiseaux. Alors, comme toujours, on voit du minuscule roitelet à l'albatros géant, parce que je dis comme toujours, parce que vous avez déjà utilisé cet artifice qui consiste à aller du plus petit au plus énorme, voilà, pour les mammifères.
C'était ça, de la musaraigne étrusque à la baleine bleue.
Donc, la mystérieuse histoire du nom des oiseaux, c'est aussi chez Robert Laffont, Henriette Walter et Pierre Avenas, avec lequel vous avez déjà écrit d'autres ouvrages. Alors, c'est vrai qu'on ne cite jamais vos ouvrages très savants de prononciation, de phonologie, mais il y en a aussi, il ne faut pas oublier. Et on voudrait signaler aussi que pour fêter les 10 ans de cette semaine de la langue française, et donc les 100 mots, 10 fois 10, mais il y en a, paraît-il, 101, il y en a un donc de plus.
C'est l'ordinateur qui a été rajouté l'année où on avait fait du vocabulaire des sciences.
Parce qu'il faut dire qu'Henriette Walter a participé dès le début à cette fête des mots de la langue française. Donc le dico des 100 mots vient de paraître et on peut se le procurer, et même sur le site internet de la Délégation Générale à la Langue Française. Henriette Walter a donné, dès le début de cet ouvrage, une interview comme un grand témoin de tout ce qui s'est passé pendant 10 ans, et elle a intitulé ce chapitre « S'exprimer en français tout en s'ouvrant aux autres langues ». C'est votre point de vue que vous aimez défendre.
Un petit peu, oui, parce qu'en fait, parler des 10 mots de la langue française, c'est aussi parler de ces mêmes mots dans d'autres langues, avec des passerelles, avec des rencontres, et donc c'est bien dans le thème de cette année.
Merci Henriette Walter, et je vous souhaite d'heureuses rencontres lors de cette semaine de la langue française.
Merci.